Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bernard avec moi dans mon salon. L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie de donner la parole aux gens que je rencontre, soit en France, soit à l'étranger, partant de l'idée que chaque rencontre peut être inspirant pour quelqu'un d'autre. Et l'idée de cette émission, c'est d'ouvrir, d'élargir sa vision sur soi et aussi sur le monde à travers ce qu'on va vivre, notamment dans le mouvement et dans le voyage. Bernard, toi aussi, tu fais partie de cette famille de voyageurs, mais je crois savoir que tu as commencé assez tard à voyager. Donc Bernard, voilà, raconte-moi brièvement ton enfance, ton éducation et à quel moment tu as osé dépasser tes peurs et te mettre en mouvement.
J'ai commencé le voyage en fait assez tard et dans mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui faisaient du camping, donc j'avais quand même déjà bougé un tout petit peu. J'avais des parents qui m'ont emmené dans le scoutisme et donc j'ai fait en tant que scout du camping aussi et le côté débrouillard qui va avec. La partie mystique aussi, toute la dimension de Saint-François qui a aussi été déterminante dans la vie qui a suivi. Après, c'était les balades à vélo où j'osais aller un peu plus loin d'un quartier à l'autre, où je savais pas trop où j'allais, mais je faisais les petits trucs, par exemple, première à droite, première à gauche, première à droite, première à gauche. Il suffisait de refaire le truc à l'inverse et ça me permettait de revenir. Et après, c'était première à droite, puis deux à gauche, première à droite, deuxième à gauche, deux à gauche, etc. Et donc, j'ai trouvé plein de petits trucs comme ça pour prendre des risques et pour aller un petit peu plus loin. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaillait à la SNCF comme aiguilleur. Donc, lui, il essayait de m'aiguiller. Mais moi, ça m'a permis de faire des voyages en train. Et déjà très tôt, vers 11-12 ans, avec mon frère, on allait en Provence chez des amis et on passait un week-end là-bas et on revenait. Puis on a fait des voyages en direction de Nice. On dormait dans le train de nuit et le matin, on sortait n'importe où. Puis on prenait le train vers Irun et puis de Irun, on reprenait le train vers Strasbourg. Et ça nous permettait de passer deux nuits dans le train et d'aller se baigner et dans la Méditerranée et dans l'Atlantique sur un week-end. Et c'est donc comme ça que j'avais commencé à voyager. J'y étais un peu sensibilisé parce que mon frère était plus curieux et plus organisé que moi. Donc moi, je n'ai pas pris trop de risques. J'ai fait un petit peu les pays limitrophes. Juste passer la frontière allemande, suisse, espagnole, italienne. Et j'ai eu l'occasion, avec le train d'ailleurs, d'aller jusqu'à Amsterdam et jusqu'à Londres. Donc j'avais fait quelques voyages comme ça, mais je n'étais pas très rassuré. J'ai eu 2 ans où je suis parti vivre en communauté, où j'ai vécu de manière un peu plus sauvage. Mais tout de suite après, je me suis marié, j'avais des enfants, j'ai fait des études de théologie, je me suis lancé dans l'enseignement, dans l'aumônerie, et ensuite dans le spectacle. Tout ça, ça faisait que je ne voyageais pas énormément, je n'avais pas énormément de temps. Et donc c'est que à l'occasion d'un anniversaire pour mes 46 ans, qu'une copine m'a dit « Mais c'est fou que tu n'oses pas aller à l'étranger. » Et on est parti en voiture jusqu'en Grèce. Et c'est là où j'ai effectivement découvert de manière incroyable que ce n'était pas tellement différent de la garrigue de Provence, à part que les gens parlaient autrement, mais que les gens d'un pays ou d'un autre, ils avaient leur vie, ils mangeaient, ils buvaient, ils dormaient, ils se rencontraient, ils échangeaient, ils commerçaient. C'était pareil. Et c'est comme ça que l'année d'après, j'ai accompagné mon frère en Égypte, que j'ai redécouvert quasiment la même chose. Et j'ai eu l'occasion de faire, donc à ce moment-là, un voyage, un convoi humanitaire qui m'a amené jusqu'en Afrique, depuis la France, et où j'ai découvert, dans ces deux voyages, la possibilité de, sur place, d'expérimenter l'expédition. C'est ça ce qui a été déterminant et de suite déterminant dans voyager en osant et en dépassant ses peurs, sans chercher les sécurités, à oser voyager tout seul. Parce que j'ai remarqué que ça fonctionnait super bien et que les voyages où on se réservait les billets depuis la France, non seulement ça nous bloquait dans notre itinéraire, mais en plus c'était souvent beaucoup plus cher que si on le prenait sur place.
C'est ça, et c'est souvent dans la mise en mouvement qu'on se rend compte que finalement toutes les peurs qu'on avait...
Il y a de l'éducation là-dedans, il y a beaucoup la peur des autres. Depuis l'enfance qu'on nous dit « fais attention, tu vas tomber, il y a un trottoir, il y a un caillou, il y a un machin, fais attention, arrête de monter, tu vas glisser, tu vas tomber », c'est sûr que plus tard quand on va te dire « tu vas te faire arnaquer » ou « tu vas pas pouvoir te débrouiller », il te faut à un moment dépasser ça pour y croire. Et il suffit de le faire une fois pour que tu vois, mais c'est incroyable, dans un pays où tu parles pas la langue, tu arrives à te débrouiller, mais c'est incroyable, par le regard, par le geste. Les choses essentielles, manger, boire, dormir, aller, venir, toi, moi, toutes ces choses-là, c'est très facile à mimer. Le ciel, s'en aller, j'ai peur, bienvenue, tous ces gestes-là sont tellement simples à mimer, et parfois on ne le reconnaît que dans le regard, rien que sur le visage. Quand on est attentif et qu'on ose croiser un regard de quelqu'un, on est bouleversifié par la beauté des regards. C'est quelque chose que j'essaie de cristalliser dans mes photos. C'est la beauté de ces instants et de ces instants partagés. C'est ça ce qui me marque, ce qui me touche.
La beauté des regards et aussi souvent une des peurs qu'on peut avoir, c'est celle de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rentrer en lien et en interaction. On a souvent l'impression que la langue va être une barrière. Tu parles du regard. Dans le regard, on peut aussi communiquer. Il y a différents types de communication. Le langage du corps, du regard et la manière de se mouvoir dans l'espace.
C'est tous les gestes, c'est tout le corps, c'est l'attitude du corps. On y est de plus en plus sensible et on sait effectivement très vite à qui on n'a pas envie de s'adresser et on sait très vite qui est-ce qui viendra vers nous parce qu'on est dans une attitude particulière. Et là, que ce soit une main qui se pose sur une épaule, c'est très rassurant. Même quelqu'un qui calculerait ça, qui essaierait de le refaire, ça se sent quand c'est pas un geste spontané. Un regard... Ça se décrypte. Et si la personne te trompe, c'est pas ton problème, c'est le sien. Et toi, il faut que tu lui dises, moi je te fais confiance, je t'ai fait confiance jusqu'à présent, je continuerai à te faire confiance. Tu peux y aller, tu peux me tromper. Tu peux tout me prendre. Ma vie, tu peux pas la prendre parce que je pourrais te la donner. Ça, je peux faire, je peux te la donner, mais tu peux pas me la prendre. Et ça t'apporterait rien de me la prendre. Ça te ferait du mal à toi. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Je suis là.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voyager, c'était pour m'immerger. Et donc, la première des choses que j'avais fait dans mon premier voyage, quand je suis allé en Chine, enfin, ça me fait rire parce que c'est vrai que c'était tout de suite à l'extrême. Je suis allé en Chine pour aller voir une éclipse en Chine. Et donc, j'avais pris les hôtels en avance. J'y allais pour 6 semaines. Dans un pays interdit de se promener tout seul, il faut avoir un guide et tout ça. Je savais rien de tout ça, je connaissais rien du pays. Et j'avais pris pendant une semaine les hôtels, mais ça m'a complètement coincé parce que j'arrivais pas à bouger, à aller où je voulais, au point où je crois que les deux dernières, je ne les ai même pas faites. J'ai commencé à faire mon chemin. Donc on va dire que j'ai dépassé mes peurs quand je suis resté le dernier de ce convoi tout seul en Afrique et j'ai trouvé un guide qui m'avait emmené, on est parti à pied au pays des Dogons et je me suis dit mais c'est incroyable, les gens sont accueillants, le guide naturellement il connaît le pays, il m'aide mais là je pourrais revenir tout seul, je pourrais revenir au Mali tout seul. C'est pas hyper difficile. Donc, par la suite, je prenais plus qu'une nuit, celle où j'arrivais avec l'avion. Et ensuite, tu te promènes dans les rues, il y a partout, les hôtels sont affichés, les Airbnb sont affichés, on trouve assez facilement. Pour ce qui était de la nourriture, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Asie ou en Inde, dans les rues, tu trouves très facilement à manger. Et puis, si tu veux pas manger ce qui est dans les rues, tu vas dans un petit resto, il y en a partout.
Mais en fait, c'est ça. Souvent, quand on n'a pas l'habitude, on a besoin d'avoir un cadre pour se sécuriser. Donc, comme tu disais dans ce voyage en Chine, tu avais réservé toutes tes nuits à l'avance. Et certains voyageurs voyagent de cette manière-là. Mais c'est vrai que ça peut être bloquant, parce que le voyage, c'est aussi peut-être mettre en avant l'imprévu, mettre en avant les synchronicités, les hasards, les rencontres qui vont nous emmener sur un chemin ou sur un autre. Et à trop planifier, on peut se fermer des portes. Et en même temps, cette planification dans ces premiers voyages est souvent nécessaire, parce qu'elle permet de se découvrir dans son potentiel de voyageur.
C'est ça, et surtout ça révèle quelque chose de soi, c'est-à-dire la manière dont qu'on a de fonctionner dans la vie. Moi, j'ai toujours aimé aller au bout de quelque chose, et donc peut-être je refais dans la manière dont tu m'as présenté tout à l'heure. J'ai une formation d'électromécanicien, j'ai bossé dans les dépanneurs d'ascenseurs, donc dans l'industrie. J'ai bossé 2 ans comme ça, puis j'ai vécu une déception amoureuse, j'ai vécu une espèce d'expérience mystique. Je suis allé vivre 2 ans la vie communautaire avec les vœux monastiques, dont une année en Ardèche à garder des chèvres. Je suis revenu, j'ai encore fait 1 an comme électrotechnicien à l'hôpital pour le matériel médical, et je voyais que ça ne me correspondait pas du tout. Et j'avais cette image que je changeais des ampoules et je montais, je descendais avec mon ascenseur. Et que là, j'avais découvert une démarche mystique où j'étais attiré par la lumière et que j'avais surtout envie de monter, pas forcément de descendre. Donc, cette expérience mystique m'a poussé à me poser des questions. Donc, du coup, j'ai fait des études de théologie. Et pour pouvoir vivre et vivre de ce qui me passionnait, j'ai fait aumônier de lycée. Et j'ai choisi d'aller dans les lycées professionnels que je connaissais. Naturellement, c'était un univers de gens qui n'étaient absolument pas ouverts, mais qui étaient des gens extra, quoi. Et qui étaient contents que quelqu'un pose des questions, que quelqu'un les écoute, que quelqu'un philosophe avec eux. Parce que dans l'industrie, on essaye au contraire d'éviter à ce que les gens se posent des questions et qu'ils soient serviables à souhait. Et donc j'ai fait ça pendant 13 ans, avant de faire aussi avec eux des spectacles et des choses de ce genre-là. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers le cirque, vers l'école de cirque que j'ai montée, vers le spectacle. Et donc effectivement, j'ai eu une carrière d'une trentaine d'années de clown. C'est aussi un de mes outils qui m'a énormément servi pour le voyage. Le clown, c'est à la fois quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui se pose la question de qui il est, des défis qu'il se lance, de se surprendre lui-même. Et cette quête-là, dans le voyage, c'est extraordinaire. De pouvoir être étonné à chaque instant, pouvoir étonner l'autre. Quand un Africain te voit avec un pantalon complètement rapiécé, et il pense que tu es un pauvre, mais il ne peut pas imaginer que c'est un blanc. Et il te voit, il y en a un jour qui pendant la nuit a pris mon pantalon et il a refait tous les accros que j'avais avec le tissu intérieur de mes poches pour qu'on ne voit pas les accros, alors que moi j'avais mis des tissus à carreaux, des tissus à fleurs à l'intérieur. Et je posais vraiment problème à des Africains, mais aussi à des Indiens, parce que je me posais, on me dit « mais tu dors où ?» Je dis « je ne sais pas ». Alors il dit « mais tu ne sais pas où tu dors ?» Je dis « non, peut-être je dors là ce soir. Mais tu ne veux pas dormir chez moi ?» Je dis « si tu m'invites, je viens ».
Donc là, tu passes d'un extrême à un autre. Hein. Tu parles de ce Bernard qui a peur de se mettre en mouvement et de partir en voyage et qui a besoin d'un cadre sécurisé. Donc tu commences à voyager accompagné. Hein. Tu parles de cet ami qui t'emmène en Grèce, de ton frère que tu rejoins en Égypte. Et là, tu me dis, tu t'en remets complètement au chemin.
C'est ça, il y avait cette progression. Et ce qui était déterminant, c'était effectivement les deux convois humanitaires que j'ai fait en Afrique. Là, j'ai vraiment été à la fois amené avec des gens qui étaient des farfelus, des tarés, des fous, enfin dans des conditions de comme on roulait, comme on dormait, mais c'est des aventuriers, des vrais aventuriers.
Comment tu t'es retrouvé embarqué dans ces caravanes humanitaires ?
Eh bien, mes parents connaissaient un missionnaire. Et ce missionnaire devait régulièrement revenir en France pour rejoindre sa communauté. Et il repartait sur sa mission au bout d'un certain temps. Et donc là, c'était l'occasion de... Enfin, il déménageait. Et donc, il y avait cette équipe qu'il connaissait et qui lui emmenait toutes ses affaires, mais qui en ont profité pour emmener un vélo, pour emmener une chaise roulante... Et tout ça pour faciliter leur passage aussi au Maroc, puisque avec un fauteuil roulant, tu passes pour un convoi humanitaire. Donc, la première fois que j'y suis allé, c'était pour ça. Et la deuxième fois, le missionnaire était installé, il avait besoin de retrouver tous ses livres. Et il y avait à Ouagadougou, enfin un petit peu plus loin, une communauté qui avait sollicité du matériel, entre autres du matériel pour des personnes handicapées. Et donc, on a fait le trajet, mais eux, ils cherchaient tous les prétextes pour partir. Eux, ils adoraient ça, et moi, j'ai pu les suivre là-dedans. Et c'était une opportunité, parce que tout le voyage était en fait organisé par des gens désorganisés, plein de confiance, plein de machins. Et puis, une fois qu'ils étaient là-bas, ils vendaient les bagnoles et ils revenaient en avion. Et donc, je restais pendant une semaine d'abord sur place et je voyais qu'on pouvait habiter et vivre. Et la deuxième fois que je suis allé en Afrique, je suis carrément resté un mois de plus. Et comme j'avais déjà fait deux semaines de voyage, dans ma tête, il y avait vraiment eu cette bascule. J'ai remarqué que quand on dépasse un mois de voyage, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui se passe, un déclic qui se fait, que l'on comprendra jamais si on ne fait que 8 jours de voyage. Si on fait 8 jours de voyage, il nous faut 1 ou 2 jours pour nous adapter, changer l'argent, savoir où on dort, etc. Et ensuite, il y a les deux derniers jours où on panique parce que il faut comment je fais pour aller à l'aérodrome et mes affaires, il faut que je pense à les mettre. Est-ce que je dois libérer la chambre à quelle heure? Ce qui fait que j'ai sur la semaine, j'ai 2 jours qui me sont à disposition.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, la notion du voyage et le temps. C'est vrai qu'on peut partir avec un billet aller et retour et un billet aller simple sans savoir quand on revient, et ça transforme complètement le voyage parce que là, on laisse vraiment de la place à ce qui va se passer, à ce qu'on va réellement vivre. C'est sûr qu'une semaine, c'est souvent des vacances finalement parce qu'on a un temps restreint lié peut-être à une vie professionnelle ou une vie familiale qui fait qu'on peut se libérer. Mais quand on part avec un billet simple, sans savoir quand est-ce qu'on revient et que le voyage s'étend dans la durée, on transforme complètement son aventure.
C'est effectivement le mot aventure qui est déterminant. Parce que vacances, voyage, aventure, c'est des choses différentes. Et le fait de voyager seul te permet de dépasser tes propres peurs, tes propres risques, et s'essayer, oser. Alors que même les fois où je suis parti à deux, on n'arrivait pas à avoir ce risque-là. Même le fait, par exemple, de se dire « Allez, pendant 8 jours, tu vas dans un coin et on se retrouve dans 8 jours. » L'idée, on l'avait, je l'ai proposé à plusieurs reprises, ça ne s'est jamais fait. Là, il y a une sorte de peur, donc la sécurité nous colle les uns aux autres. Mais quand on est seul, on n'a pas le choix. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'ai remarqué, un jour, il y avait dans la rue où j'habite, un couple de Japonais qui se promenait avec un sac à dos. Et je les ai vus et je les ai salués. Et une fois qu'ils étaient passés, je me suis dit, ah, je suis con, j'aurais pu les inviter, comme je fais d'habitude. Régulièrement, quand je me balade en ville et que je vois un gars qui a un sac à dos, eh ben, je discute avec lui, j'essaie de me faire comprendre. Si c'est un Allemand, il n'y a pas de problème, mon anglais, ça va aussi à peu près. Si c'est un Russe, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. Et chaque fois, je l'invite à manger, à dormir chez moi. Il y en a qui ont tapé un squat un jour, il y en a un qui a tapé un squat assez longtemps. Il a fallu que je le pousse, que je l'aide à continuer. Mais je me suis rendu compte que quand il y a un couple, jamais j'ai invité un couple chez moi. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par respect? Par tout ça? Et c'est dommage. Parce que quand moi j'étais en voyage en couple, eh bien j'aurais aimé être invité, manger dans une famille ou tout ça.
Mais c'est aussi quelque chose de très culturel. Je pense maintenant à l'Asie par exemple, quand tu voyages seul, ça ne se fait pas de laisser quelqu'un tout seul. Donc les gens t'invitent, les portes s'ouvrent. Je l'ai expérimenté aussi, hein, voyager en couple ou voyager seul. En Asie, ça n'a rien à voir. Tout est beaucoup plus simple en étant tout seul. Parce que viens t'amuser avec nous, ne reste pas tout seul. Cette notion de rester seul est quelque chose qui n'est pas compréhensible. On a besoin d'être en lien pour exister, pour se sentir vivant et pour s'amuser. Donc c'est vrai que quand on voyage seul, c'est juste incroyable à quel point on est souvent entouré, et des fois même de trop.
C'est vrai, et c'est pas que en Asie, c'est en Inde, c'est en Russie, c'est en Afrique. Quand quelqu'un affiche qu'il est dans le besoin, la solidarité humaine, elle se développe. Et je me rappelle, j'ai un ami qui a monté une école de cirque à Bucarest, en Roumanie, et il faisait venir les enfants qui étaient dans les souterrains et dans les égouts, qui étaient des enfants sauvages, qui vivaient en meute. J'ai été bouleversé par les valeurs humaines que ces gamins avaient sans l'éducation des parents. Et ça, c'est une des richesses et une des valeurs que j'ai retrouvées dans tous les pays où j'allais. C'est pas culturel, c'est pas la religion, c'est pas l'État qui nous apprend à partager. Et j'ai l'impression que plus on nous le rabâche dans une école ou dans une église, moins on le fait. Moi, le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'ont aidé, je le refais et je surprends des gens. Je vais te donner un exemple. Je rentre du festival de Châlons, là, il y a 3 semaines ou 15 jours. Et il y a un gars qui m'arrête sur une petite route avant une station. Donc je vois un gars avec les cheveux frisés, bouclés, une bonne touffe, une barbe de plusieurs jours, et qui parle en russe, mais qui parle un petit peu le français. Et qui me dit qu'il a des roubles et qu'il ne peut pas prendre de l'essence. Est-ce que je veux bien l'aider ? Et il me dit, il me faudrait 150 euros pour pouvoir faire le plein de ma voiture. Je rentre en Russie. Et là, j'ouvre mon porte-monnaie, j'ai que 50 euros dans mon porte-monnaie. Je me dis, si je vais avec lui avec ma carte bancaire, je le sens pas trop. Et puis il sort une liasse de billets de 500 roubles et il me montre sur son téléphone que ça vaut 140 euros les 500 roubles. Donc il me donnait 3 billets et j'avais donc 120 euros de bénéfice. Alors moi je dis, je le fais pas pour le bénéfice, on m'a rendu service à l'étranger, je veux bien rendre service ici. Et au fond de moi, je me suis quand même dit, je risque de me faire plumer là sur ce coup-là. Et là, je vois la femme derrière le pare-brise avec des nattes et des trucs qui avaient plus une allure de gitane qu'une allure de russe ou alors qui venait vraiment du fin fond de la Russie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Si je lui fais confiance, c'est lui le généreux. S'il me bluffe, c'est moi le généreux. Est-ce que je suis à 300 euros près dans ma vie ? Non. Ça fait 1 euro par jour pendant un an. Allez, va. Je lui file mes 300 euros. Il me file ses 1500 roubles. Et il me remercie et tout ça. Et moi, je suis content et pas content. J'essaie dans un état particulier. Je dis, merde, pourquoi tu te réjouis pas de lui avoir rendu service ? C'est quoi cette peur que tu as, ce manque de confiance ? Je rentre le soir, je vois des amis sur la place de la Réunion et je leur raconte l'histoire. Là, ils sont éclatés de rire. Et là, t'es vraiment un couillon, toi. Hein, tu t'es fait plumer. Ils prennent leur téléphone, ils changent, ils demandent à Google de changer le prix du rouble en euros. Et donc, mes 1500 roubles équivalaient à 15 euros. Et là, je dis, mais comment il a fait pour me montrer 140 euros au lieu de 5 euros ? C'est quand même... Je dis, bon, écoute, tant pis, je vais aller à la banque demain. Je vais à la banque, ils me disent, ah, mais ça, on ne peut pas les changer, nous. Même à la Banque de France, on n'arrivera pas à les changer. Essayez à l'aéroport, peut-être que là-bas, ils vous les prendront, c'est comme ça un aéroport international. Et je lui demande, est-ce que vous pouvez voir la valeur de ces billets ? Alors il me dit, il cherche, et puis il dit, il y a deux sortes de roubles. Il y a les roubles biélorusses et les roubles russes. Les roubles russes, c'est 5 euros, les biélorusses, c'est 140 euros. Alors je lui demande, c'est lesquels les miens ? On ne sait pas. Donc je suis resté pendant plus d'une semaine avec ce doute, mais je m'en foutais. Hein, et en fin de compte, c'est les biélorusses. Mais j'ai pas encore trouvé où les changer.
Mais donc ils valent bien ce que tu as donné en euros.
Exactement. Et même du coup, il m'a filé effectivement 120 euros de plus. Donc c'était lui qui était généreux.
Ce qui est intéressant aussi dans cette notion de générosité, on le découvre souvent aussi dans le voyage, c'est que les gens qui n'ont pas grand-chose donnent beaucoup plus facilement. Hein, tu le vois, tu parlais de l'Afrique, l'Asie c'est pareil, l'Amérique aussi, il y a cette volonté déjà d'accueillir souvent l'étranger et d'offrir ce qu'on peut offrir. Et c'est vrai que les plus beaux cadeaux, c'est des fois des cadeaux très simples, mais on se rend compte que ceux qui donnent le plus avec leur cœur, ce sont ceux qui possèdent le moins.
J'ai une petite histoire à ce propos et qui me fait encore sourire. Donc je vais en Inde pour 6 semaines, je loue une Royal Enfield et je vais me promener pendant 6 semaines dans le Rajasthan. Donc déjà le gars qui m'a vendu, il me dit « Où est-ce que vous allez ?» J'ai dit « Mais au Rajasthan ?»« Mais quelle ville ?»« Je sais pas, je connais pas. » Il dit « Mais vous êtes fou, c'est grand le Rajasthan. » Moi je croyais que c'était grand comme l'Alsace, hein, comme un département français. Non, c'est grand comme la France. Ah, d'accord, quand même. Il a dit, mais après, il faudra revenir sur New Delhi, comment tu feras ? Et je lui dis, mais toutes les routes, elles semblent ressembler à une étoile autour de New Delhi. Je reviendrai bien, et puis j'ai le soleil. Et le mec, il voulait pas me laisser partir. Alors, d'abord, il m'a collé dans les pattes un couple de Bretons qui est devenu des amis, avec qui j'ai fait une partie du voyage. Et une fois qu'ils étaient partis... Tous les jours, je me faisais arrêter. Bon, je roulais à 10 à l'heure, hein, je sais juste la vitesse, je faisais pop, 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 j'avançais. Les gens l'entendaient, ils se foutaient sur la route, ils m'arrêtaient. Et ils m'invitaient pour un café. Parfois, c'était un thé chai, mais quasiment chaque fois, c'était un café. Ok, je bois un café, donc c'est du Nescafé. Alors certains Nescafés, je sais pas pourquoi à la base, ils étaient comme du sable. C'est-à-dire tu avais de l'eau et du sable dans le fond, dans les beaux tournés, c'était pas, ça se dissolvait pas, voilà, pas soluble. Bon, voilà, comme ça j'ai passé 6 semaines au Rajasthan à boire des cafés. Et quand je suis revenu à New Delhi, dans le petit Airbnb où j'ai été, le gars il m'a dit, t'as vu comment ils sont accueillants, les Rajputs, ils sont heureux d'inviter un étranger. J'ai dit, oui, j'ai vu ça. Est-ce que tu as eu du café? J'ai dit, oui, ça, j'ai eu du café. Ah, mais eux, ils ne boivent pas de café. Ils n'achètent le café que si un jour, ils ont l'occasion d'inviter un étranger. Et là, j'ai eu un coup de grisou, comme ça, tu sais, la chair de poule qui te prend. Et j'ai dit, oh, tous ces gens qui m'ont accueilli, qui ont attendu peut-être des années, des décennies pour accueillir un étranger, et c'était moi. Et je comprends mieux les Nescafé non solubles, qui étaient les granuleux, et parce qu'ils devaient être, ils devaient avoir 30 ans ou 40 ans. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué.
Bernard, plein d'anecdotes de voyage. Merci à toi.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton accueil et pour ton émission et pour ton regard sur le monde. Et ça donne envie de regarder ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.